Décryptage, Anne Cantner.
Nouvelle manifestation aujourd'hui à Hong Kong, des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour réclamer une nouvelle fois plus de démocratie. Le mouvement semble rester relativement uni malgré les violences commises ces deux dernières semaines par certains manifestants. La colère fédère, colère contre l'exécutif local, colère contre la mainmise de Pékin et colère contre la police de Hong Kong. Jusqu'où peut aller ce mouvement de contestation? La solution peut-elle venir du régime chinois ou bien, comme le demandent les manifestants de la communauté internationale? Bienvenue dans Décryptage. Pour en parler, nous recevons Antoine Bondaz. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po à Paris. En face de vous, il y a Vincent Souriau, reporter au service international de RFI. Bonsoir.
Bonsoir.
Vincent, vous rentrez tout juste de Hong Kong où vous avez couvert justement ces manifestations. Le mouvement pro-démocratie a commencé en juin dernier et 4 mois plus tard, il semble toujours mobiliser les foules. Comment expliquer qu'il ne faiblisse pas?
Parce qu'il y a des groupes de jeunes très mobilisés qui ont un appareil militant qui ne dit pas son nom mais qui est un véritable appareil militant, qui s'organise très bien sur les réseaux sociaux avec des gens très mobiles qui sont aussi très déterminés et radicalisés d'une certaine manière parce que depuis juin, ils ont certes obtenu des concessions mais pas l'intégralité de ce qu'ils voulaient. Donc ils continuent à s'activer de manière plutôt radicale pour obtenir l'intégralité de leurs revendications. Pour l'instant, ça ne marche pas. Il y aura bientôt, après-demain, un discours de politique générale de Carrie Lam, la chef de l'exécutif. Et évidemment, c'est un discours qui va être extrêmement attendu parce qu'ils attendent des gestes forts et enfin quelque chose qui puisse déminer cette situation qui semble s'embourber de plus en plus.
Des manifestants très organisés, vous le disiez Vincent, à tel point qu'ils ont établi par exemple une carte interactive qui est mise à jour en temps réel sur les réseaux sociaux et qui répertorie le positionnement politique des restaurants de Hong Kong.
Ce qu'il s'est passé, c'est qu'en juillet, pendant les manifestations, il y avait des jeunes coincés dehors sous les lacrymos qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Je les ai invités à entrer dans le bar, je les ai mis à l'abri, et je pense que c'est comme ça que j'ai été désigné proche du mouvement.
Vincent Souriau, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Il existe même un code couleur pour répertorier et classifier les différents restaurants à Hong Kong.
C'est ça, jaune pour les pro-démocratie et bleu pour, on va dire, les pro-chinois ou en tout cas les habitants de Hong Kong qui sont considérés comme des Chinois de Chine continentale qui sont venus à Hong Kong. En fait, c'est surtout le signe de la polarisation grandissante de la société et ce que me disait ce tenancier de bar, c'est qu'en fait, si vous ne prenez pas position, de toute façon, vous êtes déjà complice des autorités de Hong Kong et on est dans une situation de guerre finalement et que vous êtes obligé de sortir de cette sorte de neutralité parce qu'on est arrivé à un point de crispation politique qui fait qu'il faut mettre tous les éléments sur la table et en gros aller au combat parce que il y a un vrai sentiment de désespérance qui fait qu'ils ont envie, en tout cas une partie de la jeunesse, d'aller se battre contre la police et d'extraire quelque chose pratiquement physiquement de ce gouvernement, de cet exécutif de Hong Kong qui selon eux est trop passif. Donc si vous voulez, les militants pro-démocratie que j'ai rencontrés sont tout à fait partisans de ce dispositif qui consiste à identifier des gens, des commerces, des restaurants favorables ou non favorables au mouvement. Et quand on leur dit, mais est-ce que c'est pas finalement le fondement d'une guerre civile, vous désignez des gens à la vindicte publique? Si un jour quelqu'un a envie d'aller tabasser un individu considéré comme pro-chinois, il n'a qu'à ouvrir Google et sur Google il pourra trouver le restaurant qui va bien. Les gens disent, peu importe, finalement on a dépassé ce stade et aujourd'hui, on en est là.
Une étape où ce ne serait plus possible de ne pas prendre parti. Alors, il y a 5 ans, il y avait déjà eu de grands rassemblements à Hong Kong, déjà pour demander davantage de démocratie. Antoine Bondaz, quelle avait été la réponse des autorités à l'époque au mouvement qu'on avait appelé le mouvement des parapluies en 2014?
Alors, c'était fait en deux temps, puisqu'en fait, début 2014, il y a eu un premier mouvement des lycéens, dont Joshua Wong et d'autres faisaient déjà partie à l'époque. L'idée était d'empêcher l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi à Hong Kong qui prévoyait que dans les manuels scolaires, il y ait une sorte d'enseignement patriotique pro-chinois. À l'époque, les manifestations avaient duré plusieurs semaines et les jeunes manifestants avaient eu gain de cause puisque le chef de l'exécutif de l'époque avait décidé de ne pas mettre en œuvre cette réforme. Et puis après, avait commencé. Partant en fait sur cette lancée en partie, le mouvement des parapluies qui lui était beaucoup plus large, hein, puisque ce n'était pas un mouvement de jeunes, c'est un mouvement beaucoup plus large, qui appelait à plus de démocratie, mais surtout à un suffrage universel, c'est-à-dire que les représentants des Hongkongais soient tous élus sur le mode d'un suffrage universel direct. Il n'y avait pas eu de concessions à l'époque des autorités de Hong Kong et des autorités de Pékin. Et en fait, on avait eu cette sorte de défaite, de fait, hein, de cette mobilisation qui n'avait pas permis à ce mouvement d'obtenir ce qu'il cherchait. Et puis, on avait eu en 2015, 2007, 2017, 2018, un mouvement qui était, entre guillemets, beaucoup moins actif. Et pourtant, la remise en cause de l'autonomie de Hong Kong s'était poursuivie. Par exemple, l'interdiction de certains partis politiques, l'interdiction pour certains élus de se présenter à certaines élections, la disparition de libraires hongkongais qui avaient dans leur boutique des livres qui critiquaient Xi Jinping et le Parti communiste. Et donc en fait, tout cela a conduit cette année à cette mobilisation sur une loi qui était symbolique, puisque c'est ce qui a lancé les manifestations, hein, ce projet de loi sur l'extradition. Et ce projet sur l'extradition, pourquoi est-ce qu'il a mobilisé plus que d'autres lois passées ces dernières années? En partie parce que, premièrement, il remettait en cause la spécificité de Hong Kong, qui était l'état de droit, qui vraiment différencie Hong Kong de la Chine continentale. Le deuxième point, c'était que ce projet de loi pouvait potentiellement concerner tout le monde. Que vous soyez un touriste hongkongais qui se rend en Chine ou un businessman hongkongais qui fait des affaires en Chine, il y avait ce risque. Et donc là, on a eu en fait ce sorte de goutte d'eau qui a fait déborder le vase et cette mobilisation extrêmement forte.
Qui a rappelé donc certaines revendications qu'il y avait déjà entendues auparavant. Vous parliez tout à l'heure de Joshua Wong qui avait été arrêté justement en mai dernier, l'une des figures de ce mouvement des parapluies, relâché un mois plus tard. Il a d'ailleurs rallié le mouvement pro-démocratie. Donc les autorités ont d'abord joué la carte de l'intimidation avec plusieurs arrestations. Puis le ton s'est encore durci jusqu'à l'interdiction il y a 10 jours du port des masques par les manifestants.
Les rapports de médecine montrent que le port du casque pousse les individus à se radicaliser. Depuis 2016, nous demandons qu'il soit interdit lors des rassemblements, comme c'est le cas dans de très nombreux pays d'Europe, au Canada et aux États-Unis. C'est une mesure qui va faciliter la collecte d'informations et les poursuites judiciaires.
Nous venons d'entendre la porte-parole du parti conservateur le plus important de Hong Kong, le DAB, qui affiche ouvertement son soutien à Pékin. Cette interdiction du port du masque, pas du casque, imposée donc il y a 10 jours, elle n'est pas du tout respectée. En fait, Vincent Souriau, qu'est-ce qu'elle peut changer?
Qu'est-ce qu'elle peut changer? En fait, ça a changé beaucoup pour les manifestants, d'abord parce qu'il y avait, il y a toujours une peur panique pour le Pékin moyen, si j'ose dire, pour les habitants de Hong Kong, les familles, les amis qui voulaient descendre dans la rue, d'être identifiés pour avoir participé à des manifestations qui sont pour la plupart interdites. Aujourd'hui, il y a eu un rassemblement autorisé par la police, c'était le premier depuis des semaines, mais depuis plusieurs semaines, on a des rassemblements qui n'étaient pas autorisés, donc le port du masque, finalement, leur permettait d'être anonymes et de manifester leur colère en parfois manifestant pacifiquement dans la rue. Le port du masque, en fait, l'interdiction du port du masque a fait sauter ce symbole de la contestation et a été un outil pour le pouvoir qui permettait en fait de diminuer l'ampleur des rassemblements. Mais au-delà de ça, c'est aussi un outil juridique dont s'est servi l'exécutif de Hong Kong pour imposer une sorte d'état d'urgence. On n'est pas allé jusque-là, mais si vous voulez, le fondement de cette interdiction du port du masque, c'est une loi d'exception. Et la crainte des manifestants, c'est qu'en fait, on verse de plus en plus dans l'utilisation de ces lois d'exception qui affaiblissent le régime démocratique de Hong Kong et verse, sans le dire, vers un régime proche de ce qui se fait en Chine continentale.
Il y a d'ailleurs eu un certain nombre de recours, de critiques. Alors, la justice de Hong Kong est plutôt connue pour être indépendante, mais qu'est-ce qui peut advenir de décisions sur de tels sujets ou justement de ces lois qui sont utilisées, de ces lois d'exception, Antoine Bandaz? Est-ce que finalement Pékin ne pourrait pas finir par imposer ses propres règles?
C'est le vrai problème. Le système juridique est relativement indépendant, mais il applique les lois de Hong Kong. Si les lois de Hong Kong changent et sont considérées comme moins démocratiques, alors le système judiciaire devra les appliquer. Et ça, c'est la crainte d'une grande partie des manifestants. Et comme le disait très bien Vincent, l'outil juridique, il est de plus en plus utilisé. Et ça fait partie de la panoplie des outils que peuvent utiliser les autorités de Hong Kong, mais aussi les autorités de Pékin pour dissuader les manifestants de poursuivre la mobilisation, pour intimider ceux qui manifestent et pour essayer, entre guillemets, de créer un front uni contre ces manifestants. Je pense que Pékin a vraiment cru au mois d'août que cela pouvait fonctionner. Et puis, on a des derniers chiffres qui sont en fait catastrophiques pour les autorités de Hong Kong. Carrie Lam, je crois, a à peu près 75% d'opinion défavorable. C'est un record historique absolu pour un dirigeant de Hong Kong. Et surtout, on a une police et on a une classe politique et surtout un exécutif qui sont complètement discrédités. Et ça pose un vrai problème, puisqu'en fait, c'est la question de la légitimité aujourd'hui du pouvoir exécutif à Hong Kong et de sa capacité, dans cette absence totale de confiance de la population vis-à-vis de son exécutif, à prendre des mesures. Et comme on en parlait tout à l'heure, la question du discours de Carrie Lam va se poser, puisque le discours d'une chef exécutive discréditée et délégitimée par sa population a forcément des marges de manœuvre limitées.
Alors, il y a eu un autre événement qui a fortement entaché l'image des autorités et de la police en ce qui concerne la répression des manifestations. C'était le 1er octobre dernier, quand un manifestant a été blessé par un tir à balles réelles. Cela avait beaucoup choqué la population.
Je suis venu parce que j'en peux plus des brutalités policières. Ça fait plusieurs jours que ça me démange. À mon époque, la police était très sensible au traitement médiatique. On surveillait ce qui se disait dans la presse à propos de nous et on essayait de rectifier s'il y avait des problèmes. Là, aujourd'hui, c'est clair qu'ils s'en foutent complètement. Ça fait longtemps qu'ils ne respectent plus le code de bonne conduite. Par exemple, quand ils arrêtent des gens, pourquoi ils vont les tabasser derrière? Ça n'a aucun sens.
L'homme que l'on vient d'entendre est un ancien policier aujourd'hui à la retraite, Vincent Souriau. C'est vous qui avez recueilli ses propos. Et vous racontez dans vos reportages qu'aujourd'hui, lorsque la police croise des habitants de Hong Kong, elle est très souvent huée.
Oui, en fait, c'est une constante. Alors évidemment, pas à 8h du matin quand les gens vont au bureau, mais lors des manifestations, des rassemblements pacifiques dans la rue, il y a une peur, panique de la police. La population est terrorisée. Et je pense pouvoir dire de manière relativement objective que la police a participé à ce que les manifestants de Hong Kong appellent aujourd'hui la terreur blanche. En fait, la police a fait en sorte, je pense, d'exercer son pouvoir de manière assez ferme, ce qui a petit à petit intimidé les familles, les habitants de Hong Kong. Il faut aussi bien comprendre que la relation des habitants de Hong Kong à la police n'a rien à voir avec celle qu'on connaît en Europe.
Oui, c'est ça, parce que ce rapport-là, c'est nouveau jusqu'à présent, et on vient de l'entendre dans le témoignage de cet ancien policier. La police bénéficiait quand même d'une bonne image et se souciait de son image.
Exactement, elle était considérée comme l'une des meilleures polices d'Asie pendant des années, formée par les Britanniques à l'époque du giron britannique, et elle avait très bonne réputation en maintien de l'ordre, dignité, respect de la population, en contact avec les civils, tout se passait bien. Par exemple, c'est la troisième fois depuis les années 60, il y a eu donc les années 60, 2014 et 2019, qu'on utilise du gaz lacrymogène. Au début du mouvement, en 2014 de Révolution des Parapluies, les premières fois où les gaz lacrymogènes ont été utilisés, ça a été un choc pour la population et c'est toujours le cas. Ça peut paraître absurde en Europe où l'on connaît des manifestations plutôt chaudes, radicales, avec souvent des outils de maintien de l'ordre assez durs qui sont utilisés par la police, mais là-bas, ça a été un véritable choc et ça l'est toujours. Et c'est toujours le cas. Si vous voulez, ce que j'ai vu moi aussi, c'est des méthodes de maintien de l'ordre, même pour des non-spécialistes qui peuvent paraître étranges. Par exemple, des manifestations qui se déroulent normalement. La police interrompt cette manifestation à l'un des bouts de la rue, dit aux manifestants de rebrousser chemin. Ils rebroussent chemin. À l'autre bout de la rue, il y a également des policiers qui disent aux manifestants rebroussez chemin. Donc finalement, les gens ne savent pas où aller. Ils paniquent. Et la police ne met pas en place de voies de secours pour évacuer les gens. On a l'impression effectivement qu'il y a une forme d'amateurisme, voulu ou pas, je ne sais pas, mais que la police de Hong Kong a fait en sorte en tout cas de provoquer cet état de peur afin de minimiser l'ampleur du mouvement.
Alors depuis 4 mois donc, les manifestants réclament davantage de démocratie. Ils dénoncent aussi la mainmise de Pékin sur Hong Kong. Ils reprochent à la Chine de ne plus respecter ou en tout cas de rogner sur le modèle un pays, deux systèmes qui accorde à Hong Kong en principe une certaine autonomie vis-à-vis du régime chinois.
C'est une règle très fragile. On le voit puisqu'on a déjà beaucoup moins d'autonomie qu'avant. Ça a commencé en 2012 avec un chef de l'exécutif ultra pro-Pékin qui s'est mis à la botte du Parti communiste chinois. En fait, un pays, deux systèmes, ça n'est qu'une notion, c'est une théorie. Et les Chinois en font ce qu'ils veulent. Donc ce n'est pas du tout une garantie.
On vient d'entendre l'inquiétude d'un manifestant. Antoine Bondaz, comment fonctionne ce principe, ce modèle, un pays, deux systèmes ?
Le principe, c'est qu'en 1984, dans l'accord sino-britannique, le statut de Hong Kong devait être préservé, tout en sachant que la colonie, évidemment, était rétrocédée à la Chine. Cela a été constitutionnalisé, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle la loi fondamentale de Hong Kong de 1990. Et les manifestants, en fait, se reposent sur ces deux textes en disant « ce n'est pas un pays de système, ce n'est pas un concept, c'est en fait un argument juridique, puisque dans les textes fondamentaux, il y a cette garantie donnée au peuple hongkongais. » Alors, en théorie, cette garantie est valable pour 50 ans, et en fait, on a une vraie contradiction derrière. D'un côté, Pékin ne veut pas qu'en 2047, le statut de Hong Kong change du jour au lendemain. Et en fait, Pékin essaye de façon provisoire et de façon petit à petit, tout simplement, de s'assurer que le statut de Hong Kong est remis en cause progressivement pour que en 2047, entre guillemets, cette harmonisation des systèmes se fasse de la façon la plus douce possible. Évidemment, du côté des Hongkongais, on oppose la loi fondamentale de 90 et l'idée que non, le système doit être préservé pendant 50 ans. Et là, pourquoi est-ce qu'on a cette explosion au moment ? Ceci est une question générationnelle. On a des jeunes Hongkongais qui n'ont pas forcément connu la colonie britannique, qui ont vécu dans un Hong Kong où les libertés fondamentales étaient garanties et qui se rendent compte que leur avenir est en jeu, que l'avenir de leurs enfants est en jeu et qui se sont mobilisés et surtout qui sont déterminés. Et ça, c'est peut-être l'erreur de Pékin initialement et des autorités, de certaines autorités de Hong Kong, c'est d'avoir sous-estimé la détermination de cette jeune génération qui considère encore une fois que les demandes et de concessions politiques qu'ils ont sont négociables. Pour de nombreux d'entre eux, elles ne sont pas négociables.
Alors le 1er octobre dernier, dans son discours à l'occasion du 70e anniversaire du régime communiste, le président chinois a quand même rappeler son attachement à ce principe, un pays, deux systèmes. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette déclaration, Vincent Souriau ? Est-ce qu'il faut y voir, par exemple, un signe d'apaisement ?
Je pense que ça s'adresse d'abord à la communauté internationale, parce que les Chinois du continent n'ont que très peu connaissance de cette notion d'un pays, deux systèmes. Et je ne suis pas sûr que ce soit un geste d'apaisement. En tout cas, ça n'est pas ressenti comme tel par les manifestants que j'ai rencontrés, qui estiment, comme on vient de l'entendre, qu'en fait, cette notion très flexible est tout à fait sujette à la personnalité des dirigeants qui se trouvent à Pékin. Donc on est dans une sorte de nasse qui est que le pouvoir chinois est capable de serrer ou de desserrer en fonction de son bon vouloir. Je ne crois pas que cette déclaration de Xi Jinping change quoi que ce soit sur le fond. En réalité, il a beau vouloir rassurer la communauté internationale pour des raisons peut-être de politique économique, ça ne change rien sur le fond du dossier, et à court terme on voit très mal Pékin, voire pas du tout, Pékin a accordé plus de droits démocratiques aux habitants de Hong Kong. C'est complètement impossible.
D'ailleurs, on a l'impression que les habitants de Hong Kong eux-mêmes n'attendent en fait pas grand-chose de Pékin, puisque eux-mêmes s'adressent à la communauté internationale. Aujourd'hui, par exemple, lors des manifestations, l'une des demandes, c'était de demander à des élus américains de voter un texte qui permettrait de modifier le statut particulier que les États-Unis accordent à Hong Kong. Est-ce que finalement, le message, c'est surtout destiné à la communauté internationale? Et si oui, qu'est-ce qu'elle peut faire, Antoine Bondaz?
Alors, c'est une des stratégies de ceux qui se mobilisent à Hong Kong, c'est d'internationaliser pour essayer de faire pression sur la Chine, d'où le fait que la Chine réagit de façon extrêmement ferme. Et hier, Xi Jinping, en visite au Népal, a annoncé que tout pays ou tout étranger qui essaie de remettre en cause l'unité de la Chine, entre guillemets, en subirait les conséquences. C'est évidemment un signe envoyé à la communauté internationale pour ne pas trop s'engager sur la question de Hong Kong. Juste pour finir, je pense qu'il y a un point important. Les Hongkongais, en fait, ne demandent pas grand-chose. Ce que demandent les Hongkongais, c'est avant tout de maintenir le statu quo. Et c'est ça qui est fondamental pour eux.
Garantir l'autonomie dont bénéficie déjà Hong Kong aujourd'hui. Exactement. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Antoine Bondaz, chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique et enseignant à Sciences Po. Et Vincent Souriau, reporter au service international ici à RFI. Je précise qu'il est possible de réécouter vos reportages sur notre site internet ou sur l'application RFI Pure Radio. Très bonne soirée à tous et à demain.